7 h en Avallon. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Nous avons ce soir notre troisième et dernière soirée sur un bouddhisme engagé. Depuis hier, l'intensité des débats a peu faibli. J'ai eu des retours divers et variés, fort intéressants. Et je suis très content de voir l'intérêt que suscite ce thème et cette discussion. Ce sera l'occasion certainement d'y revenir. Bouddhisme engagé étant simplement la vie de Bodhisattva. La vie de Bodhisattva. Le service de Bodhisattva et l'activité de Bodhisattva, de vaillant, de vaillante. L'activité de Chenrezig. Chenrezig sous toutes ses formes. Black and white, white and black. Donc nous allons commencer par écouter les questions qui se sont manifestées. Isabelle, qui a d'ailleurs déjà le micro, est porteuse d'une de celles-ci, s'il vous plaît.
Il y avait une question de Daniel, et puis ensuite il y aura une remarque d'une personne qui est présente ici.
Ah, mais c'était Isabelle à qui je viens de passer la parole.
Merci, je crois. Merci de me donner l'opportunité de m'exprimer. Je ne souhaitais pas imposer un troisième débat sur la même phrase. Mais c'est vrai que le débat de ces deux derniers jours m'ont laissé m'ont beaucoup perturbée. Et donc je souhaitais, et je crois qu'il y a eu beaucoup de questions à la fois dans la salle, et puis la phrase de l'imam a créé beaucoup de réactions en Espagne. Donc je pense qu'il y a de bonnes raisons de se poser la question de qu'est-ce qui fait moi je suis en tout cas restée sur ma faim hier au soir. Et le sentiment que j'ai, c'est qu'en fait, on a beaucoup parlé on a beaucoup débattu de cette phrase hors contexte. C'est-à-dire qu'on a passé beaucoup de temps à parler du parfum comme source de séduction, qui est en fait une interprétation des propos de l'imam au pied de la lettre. Mais il me semble que l'importance du propos, l'essence du propos se situait ailleurs, en tout cas pour moi. On est très informé, je crois, sur la manière dont les imams et l'islam intégriste formulent certains propos sur les femmes qui conduisent les femmes à être victimes de beaucoup de choses, qui sont de beaucoup de violences physiques et morales. Et donc, il me semblait important de replacer la phrase dans son contexte pour pouvoir débattre de la question de l'engagement, à savoir quelle était l'intention de l'imam. On peut formuler l'hypothèse que l'intention est de justifier la soumission des femmes à un grade d'humain de second rang. La manière dont il procède est assez courante parmi les leaders spirituels, à savoir, il formule une interprétation d'un comportement fondé sur un jugement. Et le jugement, il est fondé sur un dogme et des préjugés. À savoir que la femme, quand elle utilise du parfum, c'est forcément pour séduire, et la séduction est un péché, et Elle utilise sa séduction pour, à des fins de...
Le péché de chair.
Voilà, le péché de chair. Donc,
le péché de chair.
Ce qui m'interpelle, c'est que la phrase, finalement...
Quand un homme et une femme sont assis l'un à côté de l'autre, Satan n'est jamais loin. C'est pas de moi. Hein.
On est d'accord. Donc, ce que fait l'imam, c'est qu'il interprète, il juge... Il extrapole et il diabolise. C'est comme ça que je l'entends. Et là où je veux en venir, c'est que je pense que ce qui a, en tout cas, peut-être laissé en suspens certaines questions hier, en tout cas parmi les femmes, c'est que lorsque vous avez commenté que vous étiez en partie d'accord avec ce que disait l'imam, On entend bien que vous êtes d'accord sur le fait que le parfum est séducteur, mais on aimerait en entendre un petit peu plus sur la question de la femme, de la sexualité et de la séduction. Et je pose cette question parce que on est en Occident, et en Occident, on a vécu en tant que femme, toutes les générations antérieures, beaucoup de préjudices. À cause de la religion. Et il me semble, dites-moi si je me trompe, mais il me semble qu'y compris des textes bouddhistes traditionnels mentionnent que la femme a un handicap par rapport à l'homme pour atteindre l'éveil. Donc on n'est pas à l'abri, y compris dans notre propre communauté et de notre propre tradition, de dérives, de préjugés à l'égard des femmes, de la séduction et de la sexualité. Donc je pense qu'il serait intéressant de lever l'ambiguïté et peut-être nous apporter une clarification sur quelle est la position de la tradition qu'on pratique concernant les femmes, la séduction et la sexualité.
Très très bien, merci. Mais, c'est immense tout ce que vous avez proposé. Notons... alors, en vos propres termes, femme, séduction et sexualité. On pourrait, pour ne pas être sexiste, rajouter aussi les hommes. Hommes, femmes, séduction et sexualité. J'entends bien qu'on a traité de la parole... de cet imam qui a défrayé la chronique, paraît-il, en Espagne, hors contexte. Et j'admets l'avoir fait aussi de façon un peu délibérée, car si les sujets abordés sont importants, je ne souhaitais pas faire toute une histoire de l'histoire de cet imam et en rajouter une couche. D'autant que cet imam a dit des trucs, j'admets, non recevables. Mais il y a des imams très bien. Il ne faut pas généraliser. C'est un grand danger aussi de la diabolisation. Donc, et justement, j'entends la question que vous posez, l'interrogation sur la diabolisation par jugement d'autorité. Donc, c'est justement ce que je ne voudrais pas faire. Dans une généralisation outrancière. Mais, si l'on considère la diabolisation par argument d'autorité religieuse ou autre, il y a des anathèmes, il y a des outcas, il y a des fatwas, qu'est-ce qu'il y a encore? Les hérétiques qu'on les brûle. Avec compassion. Non, donc, il y a beaucoup de circonstances où l'autorité religieuse, particulièrement, peut, par argument d'autorité, provoquer une forme de diabolisation, de stigmatisation, ou jeter l'opprobre, le discrédit, ou pire même la malédiction. Maudit, soit, etc., pour cette génération, etc. Ça se faisait, c'est un peu perdu. La question sous-jacente est l'argument d'autorité qui justifie la violence. La violence sur les femmes, dans le cadre qui nous intéresse, mais la violence, il y a beaucoup de cas. Il y a des arguments d'autorité religieux justifient la guerre, qui n'est pas toujours même la guerre sainte. Il y a les guerres justes, comme on dit. Mais l'argument d'autorité comme justification de la violence, alors c'est un gros, gros problème historique. Si on a une autorité, et en plus religieuse, et qu'on utilise celle-ci pour justifier ce qui est généralement sa propre violence, il est clair finalement qu'on s'autorise toutes les violences. Auto-justifié. Donc, c'est pourquoi la justification de la violence par un argument d'autorité n'est jamais justifiée, n'est jamais bon, n'est jamais recevable. En tout cas, du point de vue d'un bouddhiste engagé et du point de vue du dharma. Il y a malheureusement eu, dans la tradition du Bouddha, des exemples, certaines fois, d'arguments d'autorité utilisés qui ont justifié des violences. Et c'est particulièrement lorsque tradition ou religion et État se mettent à cohabiter. Et donc, attention, et notre imam a effectivement loupé une bonne occasion de se taire. Et alors, la question du statut de la femme dans les monothéismes est une question chaude. Mais bon, je crois qu'il faut relativiser. Les femmes en France ne sont devenues citoyennes, c'était en 1945. 48. Donc, hein, quand même. Oh. 48, ça fait combien de temps? Hein, ça fait pas bien longtemps. ça ne fait pas bien longtemps. C'est vrai qu'avant, je ne sais plus à quelle époque les femmes ont acquis une âme. Il y a eu une question. C'était quand que les femmes ont eu une âme? Pardon? C'est Nicée? Et c'était en quel siècle? Bon, peu importe, mais c'est... Latran, c'était le 12e siècle. Nicée, c'est avant. Peu importe. En tout cas, il y a une époque où les femmes ont eu une âme. Avant, elles n'en avaient pas. C'était comme... des personnes d'autres espèces, d'autres races. Donc, tout ça, ce sont des violences qui sont faites, justifiées par des arguments d'autorité ou par des croyances. Et la croyance est caractéristique de l'argument d'autorité. Donc, il est bon de dénoncer sur un même pied la croyance et l'argument d'autorité utilisé pour justifier la violence. Et l'usage des textes dits sacrés comme source d'autorité. Alors, comme un copyright sur la Terre Sainte, ou je ne sais pas, ou comme un titre de propriété sur la Terre Sainte, ou autre, je ne sais pas, il y a plein de versions, et certaines qui sont chaudes dans l'actualité. Et alors, les femmes dans tout ça. La diabolisation de la femme. Là, il faudrait... J'ai presque envie de me tourner vers notre professeur de psychologie, parce qu'il y a quelque chose là, de tout à fait psychologique. Pourquoi a-t-on eu cette tendance et cette manie occidentale? Et alors, il ne faut pas être trop caricatural, mais principalement quand même très typé dans les monothéismes et surtout tardif dans le christianisme et l'islam, a une diabolisation de la femme. Qu'est-ce que vous en pensez, Gérard?
C'était une réalité
dramatique.
Quand on prend les dominicains avec l'Inquisition, le marteau des sorcières, qui est le manuel d'Inquisition pour reconnaître les sorcières, c'était uniquement des femmes. Et le Shabbat des sorcières, c'était à la pleine lune, les sorcières qui venaient. Hein. Et derrière, d'un point de vue... D'un point de vue psychanalytique, on peut mettre en rapport cette espèce de contrôle des femmes sur une peur de la castration. Hein, dans le développement de tous les petits garçons, à un moment, vers 5-6 ans, à partir de la problématique oedipienne, se rend compte qu'il y a des garçons, qu'il y a des filles, et ils se demandent ce qui va arriver à leurs petits zizi. Et ils ont peur qu'ils tombent tout seuls ou qu'on leur coupe. Et donc, ils rendent les mères, celles qui n'ont pas de pénis responsable de ça. Et inversement, les filles en veulent beaucoup à leur mère de leur avoir pas donné cet objet du désir. Hein? Donc ça, c'est un niveau individuel. À un niveau collectif aussi, il faut bien voir que toutes les cultures, elles sont dans l'obligation de protéger leurs femmes. Hein? La théorie de Lévi-Strauss, c'est de dire que les femmes, c'est l'échange des femmes et l'échange des biens, c'est la base de la culture. et qu'on est obligé d'avoir une exogamie. Les Romains, quand ils arrivent, quand Énée arrive de Troie après tout son périple, il arrive dans Rome, il crée Rome, mais ce sont que des hommes. Ils sont obligés d'enlever les Sabines pour pouvoir avoir des femmes et fonder une culture. Et il y a un tableau célèbre, on voit les Sabines qui se mettent entre leur mari et puis leur père et leur frère. Hein, donc, au niveau culturel, hein, c'est cette espèce de domination masculine, elle est, semble-t-il, faite pour pouvoir lutter contre le tout pouvoir de la femme qui a d'enfanter. C'est elle qui maintient la vie. Hein. Les premiers cultes qu'il y a au niveau du Moyen-Orient, qui datent de 15-20 000 ans, même les cultes antérieurs au niveau des hommes préhistoriques, c'est toujours des déesses mères. C'est toujours des déesses mères, c'est jamais des pères. Les hommes sont toujours des parèdres, hein, soit des animaux, soit des hommes, qui sont toujours en position inférieure par rapport à la déesse mère. Hein. Et dans toutes les cultures se sont débrouillées pour éviter de contrôler, en effet, le corps et la fécondité des femmes. Parce que si les femmes décident de plus faire d'enfants, eh ben, il n'y a plus de culture, il n'y a plus rien en une génération. Donc elles ont un pouvoir énorme. Hein, il y a un proverbe qui dit « Mater certissimus, pater incertus ». La mère est certaine, le père
est incertain.
Hein, est incertain. Et qu'est-ce qui dit le nom du père ? C'est la culture. C'est la culture qui dit « cet homme est considéré comme le père de cet enfant ». Donc on voit bien qu'entre nature et culture, il y a cette espèce de dialectique de pouvoir entre cette puissance féminine, qui est celle de pouvoir procréer, et puis cette impossibilité pour l'homme de pouvoir procréer, et qui essaye de toutes les manières possibles de trouver autre chose, y créer de la peinture, de tous les arts. Hein. Mais qu'est-ce qui fait des enfants jusqu'à présent? C'est uniquement les femmes.
À quand les pères porteurs?
Il y a un très beau film avec Mastroianni là-dessus.
Et il y avait un joli film aussi, marocain, sur des femmes qui ont fait la grève du sexe. Je ne sais pas si vous avez vu ce film. Pour obtenir gain de cause, justement, vis-à-vis de la pression des hommes qui ne voulaient pas aller chercher l'eau. Ah oui. C'était le job des femmes, en général. Et là, il y avait une pénurie d'eau, et c'était très, très, très épuisant, faire des kilomètres, etc. Les femmes n'arrivaient plus à s'occuper des enfants. Enfin, ça créait un grand déséquilibre. Elles ont décidé de faire la grève du sexe. Et ça a été un grand choc dans la région. Là. Et elles ont fini par obtenir gain de cause, du coup.
Oui, mais l'histoire se continue aussi. C'est qu'après, des Occidentaux de bonne volonté leur ont dit « On va vous amener l'eau courante directement au village. » Donc, ils ont amené une puits. Et donc, les femmes, elles ne pouvaient plus aller à la rivière chercher l'eau. Ce qui fait qu'elles ne pouvaient plus avoir des amants, elles ne pouvaient plus être tranquilles parce que les hommes regardaient un peu ce qu'elles faisaient. Et donc les femmes ont saboté la pompe à eau pour pouvoir de nouveau retourner à la rivière chercher l'eau et avoir leur vie de femme entre elles, sans les hommes, sans la surveillance des hommes.
D'accord, donc il y a plein de rebondissements. Donc en tout cas, merci pour ce cours accéléré là, de psychologie. Très intéressant, mais il faudrait développer chaque paragraphe. Il y a une relation entre le féminin et la nature. Le masculin et la culture, si on veut aussi, mais surtout la mère nature. La mère nature, la terre-mère, la grande mère, et du matriarcat originel, enfin originel en tout cas. La peur de la femme, ou le danger, et par là même son côté finalement obscur, qui est susceptible d'être diabolisé et fort, très fort, en relation avec le sexe. Alors, Gérard le disait, la peur de la castration, ou il y a une peur et dans cette peur, la volonté du mal à maîtriser ou dominer la situation, et aussi, alors vous disiez échanger, ou en tout cas, il y a eu commerce et possession, donc, et l'appropriation. Alors, il y a certainement aussi dans la femme voilée une appropriation. Il ne faut surtout plus qu'elle soit vue et qu'elle ne fasse pas comme celles qui vont chercher de l'eau pour en profiter des buissons sur la route. Mais alors, il y a eu plein d'études, je crois, sur le sujet. Hein, et donc, je ne suis pas un spécialiste, mais ce qui me semble très significatif, c'est dans les monothéismes, largement, c'est effectivement la relégation du féminin et du naturel, c'est-à-dire aussi de la nature, a un rôle secondaire. Là, ça vous semble excessif.
Si je peux me permettre, ma question était simplement autour du fait que la croyance dans les religions monothéistes, c'est que la femme est impure.
Que la femme est...
La femme est impure. Elle est impure. Oui. Elle est impure. Et c'est une croyance. Donc, ce que simplement je souhaitais vous demander, c'est le point de vue, un éclairage sur la perspective de la tradition bouddhiste, peut-être avec un historique, sur cette question-là. Et comment, la deuxième question qui était derrière, c'est... Comment est-ce qu'on développe au sein de notre communauté la vigilance ?
Une à la fois, parce que autrement c'est trop pour moi. La femme est impure et elle est reléguée à un niveau numéro 2. Déjà, Dieu est masculin, Dieu le Père. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, et que votre règne arrive, etc., etc. Alors, vous me demandez quel serait le sentiment bouddhiste. Nous dirions notre Père-Mère qui est le ciel et la terre. Voilà. Et même... notre mère-père, qui est intelligence et amour. Donc, nous préférons une vision sexuée, bipolaire, dans une complémentarité, unisexe et phallocratique. Alors, il y a déjà des dames qui disent, mais regardez autour, là, dans les fresques, il y a plus d'hommes que de femmes, il n'y a pas la parité.
Les femmes sont là en tant que déité, mais pas en tant qu'être de pouvoir ou qu'être ou de maître. Elles ne sont pas représentées en tant que...
Dans notre lignée, les deux premières, c'est des femmes.
Oui, dans nos oui, mais
c'est bien déjà.
Là, vous en avez une juste au-dessus de la tête. Regardez, une jolie femme. Alors, par contre, elle est entourée d'hommes. Alors, de toute façon, je ne suis pas en train de vous dire que le patriarcat n'existe pas et qu'il n'a pas pris la place du matriarcat d'une façon générale. Mais dans... la culture tibétaine, si c'est de celle-ci que l'on parle, c'était beaucoup plus articulé. Et par exemple, les Tibétains, suivant les circonstances, pratiquent aussi bien la bigamie, la polygamie que la polyandrie. Donc, suivant les circonstances. Donc, mais ce sur quoi je voudrais revenir, finalement la diabolisation de la femme, mais la diabolisation de la nature. Parce que c'est là que et les femmes et nature étant très fortement reliées. Et la diabolisation avec les deux du sexe et de la sexualité, qui est les énergies naturelles. La sexualité est une pulsion, une énergie naturelle chez les mammifères. Et juste la preuve du contraire, les hommes sont des mammifères. Voilà. Donc, il y a eu dans les religions en général, et dans le monothéisme en particulier, une occultation de la nature, un refus de la nature, un déni de la nature et une diabolisation finalement ce qui est naturel. À ce sujet, j'ai vu un film il y a quelque temps, comment ça s'appelait, un film célèbre, ça commence, il y a deux voies, il y a la voie de la nature et la voie de la grâce. C'est... Pardon ? The Tree of Life. Merci. Alors, tiens, un film très intéressant. Tu as eu un Oscar. Peu importe. Mais qui finalement est l'histoire de croyants évangélistes qui vivent suivant justement la voie de la grâce, qui est aussi la voie de la croyance. Et ça se termine par le suicide du fils, allégorique. Mais ce qui est important, c'est cette distinction et cette opposition, la voie de la nature qui est la voie de la grâce. Il y a la voie de la grâce, il y a la voie de Dieu, et la voix de la nature, qui est la voix du diable. Voilà. Et la nature, à ce moment-là, est comprise comme, les pulsions humaines dans ce qu'elles ont de plus vil, de plus sauvage, les passions, en bref. Donc, cette diabolisation de la nature, et dont on voit d'ailleurs les méfaits dans ce film, est une caractéristique très singulière des monothéismes et des religions, plus une religion est religieuse, c'est-à-dire dans la croyance, plus elle a tendance à dénigrer la nature. Alors, pourquoi ? Pourquoi cela se passe-t-il ainsi ? Parce que plus une religion est dans la croyance, plus elle est dans le mental. Et les religions fondées sur des croyances cultivent le mental le plus possible. Et les religions monothéistes ont fini par inventer un dieu qui est purement mental, dans un surnaturel tout à fait et complètement mental, qui ne subsiste que dans le mental de ceux qui croient. Et dans, de leur point de vue, plus il y a de mental et plus l'on est dans le mental, meilleur c'est. Il ne faut surtout pas aller du côté de la nature. Car dans la nature, il y a de la sensation, il y a de la sensitivité, de la sensualité, et de la sexualité. Tout ça, moins de mental. Très mauvais. Très mauvais. Donc, il faut bloquer tout ça, barricader, interdit. It's no good. Et on est arrivé de fil en aiguille à des situations tout à fait bizarres, et je dirais même zarbi. Alors, qu'est-ce qu'il y avait comme autre question pour qu'on termine comme... s'il vous plaît, Georges.
Oui, je suis tout à fait d'accord sur ce que vous dites au niveau des religions monothéistes, mais si on en revient à l'histoire du dharma du Bouddha, en particulier le Bouddha lui-même, il s'est fait quand même tirer l'oreille assez longtemps avant d'accepter les femmes dans la Sangha. Et si je me rappelle bien, il avait donné un certain nombre de raisons, dont, par exemple, les femmes sont séductrices, les femmes sont menteuses, elles sont querelleuses et autres propos de ce genre. Voilà. Et puis, on s'aperçoit aussi que dans les régions bouddhiques où il y a encore des nonnes, les nonnes n'ont soit pas de statut, soit un statut inférieur à celui des moines. Et c'est si vrai. Les moines et les nonnes sont complémentaires, c'est que les nonnes sont au service des moines.
C'est vrai. Non, pour être complet, le Bouddha est intervenu, Sakyamuni Bouddha a enseigné dans un milieu qui était très patriarcal, c'est-à-dire le brahmanisme brahmanisme. Et le fait qu'il ait commencé un ordre de yogini, un ordre de yogini ou de monial érémitique ou de monial errante, mendiante et libre, était à l'époque tout à fait novateur et tout à fait extraordinaire, tout à fait même scandaleux. Alors, c'est vrai qu'il l'a fait à la requête insistante de même de sa mère et la belle-mère et en disant que ça allait être difficile et c'était réaliste que de dire que ça allait être difficile et c'est vrai en instaurant un certain nombre de règles particulières pour les moniales, mais bon, c'est ça assez simple et compréhensible parce qu'il y a des cas particuliers, mais aussi en créant une hiérarchie et en plaçant l'ordre des moniales dans la dépendance et sous l'autorité de l'ordre des moines. Alors, c'était dans une époque. Aujourd'hui, j'ai participé il y a une vingtaine d'années à des rencontres avec Sa Sainteté le Dalai Lama, où nous étions un cercle d'enseignants occidentaux avec Kundun. Et c'est une question et une remarque qui lui fut faite, même avec de façon poignante et émouvante. Et il a lui-même, le Dalai Lama, eu une position très claire. Pensait qu'aujourd'hui, ce sont des choses qui ne devraient plus avoir cours et qui devraient être revues, révisées. Il a appelé un concile, un nouveau concile, pour un certain nombre, effectivement, d'ajustements, de update, de mises à jour. Le concile n'a toujours pas eu lieu. Mais là on travaille sur des cycles longs. En tout cas, c'est une question qui est plus de l'ordre culturel. Là, dans les enseignements des tantras, la femme est la femme, le féminin, la dame, Dakini, le féminin, la féminin, la nature a un rôle prééminent. Et toute la voix et l'incorporation à la nature première dans la libération des voiles mentaux. C'est exactement le contraire de l'approche monothéiste. C'est d'ailleurs pour ça qu'il peut y avoir aussi une forme de diabolisation pour des théistes d'autres traditions qui célèbrent la nature et honorent celle-ci. La nature, notre nature de Bouddha, la nature fondamentale. Bien. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans votre question ? Alors, profitons-en pour dire que, justement, nous avons la chance d'être dans une tradition qui a à son origine des dames. Voilà. Des Nidumas ou Kassidir. Alors, c'est une... comme c'est rare, alors je concède que c'est rare, mais comme c'est notre lignée, profitons-en pour en être heureux et en être fier. Mais nobody's perfect, je devrais être une femme. Est-ce qu'il y avait d'autres questions aussi?
Deuxième question, c'était comment, en tant que communauté et en tant que pratiquant, on développe la sagesse, la vigilance pour éviter de tomber dans des préjugés, tout simplement. Comment se préserve-t-on du risque, sachant qu'il y a toujours un risque parce qu'on est des êtres humains et qu'on on cultive des croyances, même si nous appartenons à une tradition plus qu'à une religion.
Déjà, de comprendre que les préjugés sont mauvais, les a priori sont mauvais, les jugements a priori sont mauvais. Ce sont des projections mentales, des conditionnements mentaux qui amène des projections mentales. Tous les zzz sont mauvais, tous les zzz sont sales, tous les zzz sont blabla, tous les zzz sont... de ce genre de généralisation, mais aussi de projection qui fait que par rapport à chaque « zzz », on va avoir cette image, ce cliché. Ce sont les projections, nos projections. Non, c'est-à-dire, une projection, c'est une illusion. Donc, déjà, savoir comprendre que c'est mauvais et comprendre le processus, le processus projectif et d'apprendre à ne pas être dans le jugement, justement. C'est la première chose, une des premières choses que l'on apprend dans la pleine présence, dans les attitudes de pleine présence, MBFT, à ne pas être dans le jugement. Et « don't be judgmental ». Ne soit pas. C'est aussi un des préceptes de l'entraînement de l'esprit, ne pas être dans une attitude d'étiquetage, de jugement, d'a priori, de projection. Alors, et si l'on comprend que c'est mauvais et que c'est problématique, c'est la première étape. Alors, ensuite, comment se débarrasser de ces jugements et de ces a priori, parce que prétendre que l'on n'en a pas serait faux, en les considérant comme des rêves ou simplement comme voilà une non pas comme la réalité mais comme notre réalité, tout comme un rêve n'est pas la réalité, mais notre réalité onirique dans le sommeil. Et donc, finalement, d'apprendre à voir les projections comme des projections, plutôt que la réalité, à reconnaître. Et il y a là un changement d'attitude, un changement d'attitude cognitive extrêmement important. Et c'est un apprentissage, c'est un entraînement, c'est l'entraînement de la méditation, c'est l'entraînement de la pleine présence. Et donc, pour répondre à votre question, eh bien, en pratiquant l'entraînement de la pleine présence. Et avec tous ces applications et ces développements qui nous apprennent à expérimenter dans le retrait des projections ou dans la transparence des projections, dans une expérience directe, immédiate, petit à petit, le plus possible. Je vous propose un moment de contemplation finale avant la dédicace.